monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du jeudi 2 août 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Au Mali, les résultats devraient être annoncés ce soir, donc c'est l'attente à Bamako. Au Zimbabwe, l'armée se déploie dans les rues pour empêcher toute manifestation de l'opposition, alors que le pays attend toujours la publication des résultats. République démocratique du Congo, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a déposé son dossier de candidature à la présidentielle de décembre.
L'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles. C'est ça notre préoccupation.
Puis ici aux États-Unis, la Maison-Blanche met en place un programme pour empêcher une interférence de la Russie dans les élections de novembre aux États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, les résultats de la présidentielle seront connus dans la soirée. Depuis dimanche, certains s'interrogent sur la lenteur de la publication des résultats. Mais ce jeudi, la commission de centralisation des résultats a fini son travail, comme l'a constaté notre correspondant Kassim Traoré à Bamako.
Ce sont des tas d'enveloppes venant de tous les cercles du pays qui jonchaient les tables des membres de la commission de centralisation. Un travail minutieux et complexe, d'où la mise en place de 3 sous-commissions pour le traitement des résultats. Le tout devrait être compilé, faire un classement par cercle. C'était la mission confiée à la Commission nationale de centralisation, basée au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Plusieurs difficultés ont été rencontrées selon un membre de cette commission. D'abord, il y a le fait que les agents électoraux au niveau des régions n'ont pas de niveau, des écritures illisibles. Face à certains cas, faute de consensus, ils ont décidé de laisser le soin à la Cour constitutionnelle de trancher par rapport à des bulletins nuls. En tout cas, c'est sur la base du travail effectué par cette commission que tout le monde a compris qu'il y a un second tour qui se dessine déjà dans les états-majors des partis politiques. Des tractations sont en cours afin de louer des alliances pour le second tour prévu le 12 août prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, Renouveau FM, la radio où intervient l'activiste Rasbat, très influent auprès de la jeunesse malienne, a été fermé ce jeudi sur ordre du gouverneur de Bamako. Autre présidentiel dans l'actualité, au Zimbabwe, à Harare, au lendemain d'une répression meurtrière contre l'opposition, l'armée patrouille dans les rues de la capitale alors que le pays attend toujours la publication des résultats de la présidentielle. Un dernier bilan communiqué aujourd'hui par la police zimbabwéenne fait état de 6 morts. Nicolas Pino.
La commission électorale a exhorté ce jeudi la population à faire preuve de patience, annonçant que les résultats pourraient être communiqués dès 20h, temps universel. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'apaisement et à résoudre, je cite, « pacifiquement les différends avec l'opposition », précisant avoir été en discussion avec son chef Nelson Chamisa pour tenter de désamorcer la crise. Selon les sources jointes par VOA Afrique sur place, 8 leaders de l'opposition sont déjà entrés en clandestinité avant la publication de ces résultats et la police a déjà bouclé le siège du MDC, le principal parti d'opposition. Beaucoup craignent un hold-up électoral en faveur de Mnangagwa et du parti au pouvoir, la ZANU-PF, déjà annoncé vainqueur à la majorité absolue des législatives, ce que dénonce l'opposition qui crie à la fraude. La communauté internationale s'inquiète de ces tensions post-électorales. Le Commonwealth a catégoriquement dénoncé l'usage excessif de la force contre des civils non armés et demandé à la commission électorale d'annoncer sans plus attendre tous les résultats des élections. Dès mercredi soir, le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, et les États-Unis avaient appelé Harare à la retenue.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a déposé sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Il s'est rendu aujourd'hui à la commission électorale de Kinshasa. À sa sortie, il s'est confié à la presse. Ses propos sont recueillis par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Oui, je vais vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Maintenant, il appartient donc à celle-là de traiter toutes les candidatures, mais à mon niveau, j'ai déposé tout mon dossier. Il est en règle. L'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles. C'est ça notre préoccupation.
C'était Jean-Pierre Bemba, candidat déclaré à la présidentielle congolaise. Et puis le président congolais Joseph Kabila, lui, il est arrivé ce jeudi à Luanda pour une visite de 2 jours à l'invitation de son homologue angolais João Lourenço. Le gouvernement congolais vient d'installer une équipe composée de médecins épidémiologiques avec un centre d'isolement à Mangika dans l'espoir de stopper la progression de l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans la région de Beni. Le bilan reste d'au moins 20 décès sur les 26 cas déclarés. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
En provenance de Mangina à Beni, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, dans une interview exclusive à VOA Afrique, lors de son passage à Goma, rassure toute la population et appelle tout le monde à observer les règles d'hygiène.
Donc après la déclaration de l'épidémie, c'est vraiment capital pour nous d'aller directement à l'exemple et d'organiser la riposte. Ils nous avons été également jusque à Mangina, à l'épicentre. Nous avons laissé là-bas nos experts épidémiologistes pour justement organiser la coordination au niveau local.
La mission des Nations Unies en RDC promet d'accompagner logistiquement les gouvernements congolais, ajoutant que les casques bleus de la MONUSCO assureront la sécurité des équipes de médecins restées à Mangina, a expliqué à VOA Afrique David Gressley, envoyé spécial des Nations Unies chargé des opérations.
On est prêt de faire le nécessaire pour assurer le succès de cette réponse menée par le gouvernement. Oui, on va continuer d'aider le FIRDC de sécuriser cette zone.
Cette 10e apparition de l'épidémie d'Ebola en RDC a déjà fait au moins 20 morts sur les 26 cas enregistrés. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
L'opposition togolaise n'est pas satisfaite des recommandations formulées par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour sortir de la crise politique. Au terme de leur sommet d'hier consacré à la crise togolaise, les dirigeants ouest-africains ont notamment plaidé pour la tenue d'élections législatives d'ici la fin de l'année, ce que rejette en bloc la coalition de l'opposition car ils redoutent des fraudes. Dans un communiqué, l'opposition note l'absence de l'évocation d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles et électorales, ainsi que la question sécuritaire. À Abidjan, Côte d'Ivoire, le maire du plateau révoqué pour détournement a rejeté ces accusations. Noël Akosi Benjo dénonce une dérive totalitaire du régime. Puis le président nigérien Muhammadu Buhari part demain à Londres pour 10 jours pour ses congés annuels, a indiqué son porte-parole, qui n'a toutefois pas dit s'il allait voir son médecin ou pas.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a de nouveau bloqué ce jeudi l'approvisionnement en carburant de la bande de Gaza en réponse au cerf-volant incendiaire lancé depuis ce territoire palestinien soumis depuis plus de 10 ans à un sévère blocus. Cette mesure risque d'accentuer les coupures d'électricité, notamment pour les hôpitaux, ce qui met en danger la vie des malades selon les Nations Unies. La Russie continue d'essayer d'affaiblir et de diviser les États-Unis en interférant dans le processus électoral américain et en s'immisçant dans le débat politique. C'est une accusation du patron des services de renseignement américains Dan Coats. Pour sa part, Christopher Wray, le patron de la police fédérale, le FBI, a mis en garde estimant que c'est une menace que nous devons prendre très au sérieux. L'administration Trump a annoncé ce jeudi un plan pour contrecarrer les efforts russes d'influer sur les élections de mi-mandat. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Kuala Lumpur, première étape d'une mini-tournée en Asie du Sud-Est, au cours de laquelle il mettra l'accent sur le dossier nucléaire nord-coréen. Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie des États-Unis doit rencontrer demain le premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, 93 ans. Une étape importante à Kuala Lumpur, où pour la première fois dans l'histoire de la Malaisie, une élection a été remportée par une coalition d'opposition. Le secrétaire d'État se rendra ensuite à Singapour pour participer à plusieurs réunions régionales, puis en Indonésie. À Singapour, Mike Pompeo doit demander aux pays de la région de continuer à mettre en œuvre les sanctions internationales contre la Corée du Nord tant qu'elle n'aura pas abandonné ses armes atomiques. La Russie et la Chine, auxquelles les États-Unis reprochent d'avoir relâché la pression sur Pyongyang, seront aussi présentes dans ces réunions de l'ASEAN. Le département d'État n'a pas exclu une rencontre avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho en marge du rendez-vous de Singapour, mais une telle réunion n'est pas encore prévue à ce stade. Au cours de cette mini-tournée, le ministre américain des Affaires étrangères entend défendre la vision américaine pour la région Indo-Pacifique que Washington souhaite libre et ouverte. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis devraient également être au menu des discussions au moment où l'administration Trump menace de taxer encore davantage les marchandises chinoises.
Des organisations de la société civile américaine ont lancé des poursuites contre le président Trump et des responsables de son administration. Elles accusent d'avoir soumis plus d'un millier d'immigrés clandestins à des conditions de détention inhumaines en Californie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerakiza.
Le FMI verse 5 millions de dollars au Gabon pour contenir le poids de la masse salariale et d'autres dépenses non prioritaires. Il est aussi prévu d'éliminer un grand nombre d'agences semi-gouvernementales et de renforcer le contrôle des organismes publics pour améliorer la transparence et l'utilisation des fonds publics. D'après le FMI, la reprise macroéconomique demeure fragile à cause notamment des dérapages budgétaires fin 2017 et début 2018. Les Nations Unies vont accorder au Rwanda 630 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de développement. Ces fonds serviront à appuyer la transformation économique, la transformation sociale et la gouvernance. Kigali veut créer quelque 1,5 million d'emplois décents, accélérer l'urbanisation, promouvoir le développement industriel et améliorer le rendement de l'agriculture et de l'élevage. Conflit commercial, la Chine a dénoncé un chantage américain à la suite de la menace de l'administration Trump de taxer encore davantage les marchandises chinoises. La Maison-Blanche accuse Pékin de pratiques déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Washington veut que Pékin réduise de 200 milliards de dollars son excédent commercial annuel avec les États-Unis et d'ouvrir davantage son marché aux biens américains. Les discussions entre les deux puissances restent au point mort. Pékin se dit être ouverte à un dialogue fondé sur le respect mutuel et appelle Washington à revenir à la raison.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les pharaons d'Égypte ont un nouveau sélectionneur.
Oui, le Mexicain Javier Aguirre, 59, a été nommé sélectionneur des pharaons pour 4 ans en remplacement d'Hector Cooper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec au Mondial 2018. Ancien international mexicain, 59 sélections, Aguirre a disputé 2 Coupes du Monde comme joueur et 2 comme sélectionneur en 2002 et 2010, atteignant toutes les deux fois les 8e de finale. Sa dernière expérience d'entraîneur remonte à la période 2015-2017 à la tête de l'équipe émiratie d'Al-Wada. C'est la première fois que le technicien mexicain travaillera en Afrique.
L'Algérie aussi tient son nouvel entraîneur.
Jamel Belmadi est le nouveau sélectionneur des Fenech. L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Algérie va signer un contrat qui le liera à la Fédération algérienne de football jusqu'à la Coupe du Monde Qatar 2022, d'après le communiqué de la FAF. Il succède à Rabah Madjé, limogé en juin après seulement 8 mois. L'Algérie a usé 5 sélectionneurs en 3 ans depuis le départ de Vahid Ali Lozic après l'élimination des Fenech en 8e de finale du Mondial 2014, le meilleur parcours de leur histoire.
Clap de fin pour Moussa Sow en équipe nationale du Sénégal.
International sénégalais depuis août 2009, l'attaquant de 32 ans a annoncé sa retraite internationale. Le buteur du Shabab Al Ahly a été sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, mais il n'a pas disputé la moindre minute en Russie. 6e meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga, l'ancien Lillois s'en va sur un bilan de 47 caps et 19 buts. Moussa Sow a pris part au CAN 2012, 2015 et 2017 avec son pays.
Championnat d'Afrique d'athlétisme, Jemal Mekonnen a remporté l'or dans l'épreuve des 10 000 mètres.
L'Éthiopien a remporté l'or sur 10 000 mètres en 29 minutes 9 secondes 17 centièmes. Il avait pris la 4e place en 2016 en Afrique du Sud. Son compatriote Adam Lak Beliou Berta est monté sur la 2e marche du podium. L'Ougandais Timothy Toroitich, finaliste lors des mondiaux de Pékin en 2015, a complété le podium. Rappelons que le coup d'envoi des 21e championnats d'Afrique d'athlétisme a été donné hier au nouveau stade Stéphane Keshi d'Assaba. Après quelques difficultés notées dans le transport des délégations de Lagos à cette ville du Delta, où se tiennent les compétitions qui vont se poursuivre jusqu'à dimanche.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En Centrafrique, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des interrogations. Au-delà de ces assassinats, c'est la présence russe dans le pays qui suscite des interrogations, puisque les militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et qu'une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Nicolas Pinault a joint Thierry Vircoulon, enseignant à Sciences Po et chercheur à l'Institut français des relations internationales.
C'est vrai qu'il y a une société de sécurité russe qui opère en Centrafrique, hein, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le fait qu'ils soient retrouvés morts alors qu'ils investiguaient cette société est en effet surprenant. Sur le fait qu'ils auraient été tués par des hommes en turbanais, c'est assez flou, on peut le dire.
Globalement, cela repose la question de la présence des Russes en Centrafrique ces derniers mois.
Oui, tout à fait, on les voit partout, à Bangui, en centre-ville, mais on les voit aussi dans la partie rebelle du pays, qui est contrôlée par la Seleka, où ils se sont installés à au moins 2 endroits. Officiellement, ils forment l'armée centrafricaine. Ils fournissent aussi la sécurité rapprochée du président Touadéra. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font en zone rebelle? Ils sont installés dans des zones très connues, où il y a beaucoup de mines artisanales d'or et de diamants. Ils souhaitent probablement s'impliquer dans ce business qui se trouve précisément en zone rebelle. Et c'est probablement pour ça que le gouvernement russe a tenté de monter une médiation à Khartoum début juillet entre le gouvernement centrafricain et les seigneurs de guerre de l'ex-Seleka.
Aujourd'hui, concrètement, quelle zone du pays est contrôlée par le pouvoir central de Faustin Archange Touadéra?
J'aurais tendance à dire que rien n'est contrôlé par le gouvernement centrafricain. En fait, les zones où il y a une présence de la MINUSCA, donc c'est Bangui, évidemment, la capitale, et c'est certaines provinces de l'ouest du pays qui sont calmes. Le fait qu'elles soient calmes ne veut pas dire qu'elles sont tenues par le gouvernement. Elles.
Sur la Centrafrique aujourd'hui, vous direz que c'est un État qui a échoué déjà ou encore?
L'administration a complètement disparu de la Centrafrique, donc c'est maintenant un territoire à prendre. Et l'arrivée des Russes illustre ça. C'est un territoire qui a été pris par des seigneurs de guerre à partir de 2013. Maintenant, il intéresse un peu les Chinois, il intéresse aussi les Russes. C'est un environnement à haut risque, mais qui est une sorte de terre pour flibustiers et aventuriers qui veulent s'enrichir rapidement, le gouvernement étant purement virtuel et les Nations Unies ne contrôlant évidemment pas grand-chose.
C'était Thierry Vercoulon, chercheur à l'IFRI.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, résurgence de la fièvre à virus Ebola, une semaine après que le ministre de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie dans l'Équateur. Cette 10e réapparition du virus est localisée cette fois à l'est du pays, dans le territoire de Beni. Un rapport du ministère de la Santé fait état de 26 cas, et dont 20 décès au 31 juillet. Anastasie Toudiech a joint à Beni Nikes Kibelbel-Oka, directeur de publication du bimensuel Les Coulisses.
D'abord, c'est pratiquement un étonnement, une surprise, parce qu'on s'attendait le moins. Et vous savez que le virus s'est manifesté à 30 km de la ville de Beni, donc dans la cité rurale de Mandima. C'est un peu comme une surprise. Alors, bon, les gens se posent des questions. Mais comme la réaction est assez rapide, on espère bien que le virus sera maîtrisé. Jusque-là, la population observe les consignes qui ont été données, notamment par le ministre de la Santé, par le gouvernement, voire les réseaux sociaux et les radios, la presse qui a donné.
La déclaration de la résurgence du virus a été faite hier par le ministre de la Santé que vous évoquiez, alors que selon Médecins sans frontières, des cas ont commencé à être signalés autour du 31 juillet. Comment expliquez-vous cette latence?
On ne pouvait pas aller vite en besogne parce qu'il a été question de prendre des échantillons qui sont descendus à Kinshasa. Je pense qu'il est temps d'être rassuré que c'était effectivement le virus Ebola. C'est ça qui a fait ce décalage entre Médecins sans frontières et le gouvernement. Mais je pense que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose dans la façon de maîtriser et d'anéantir le virus Ebola.
Justement, à part les instructions d'hygiène que vous avez évoquées également, avez-vous le sentiment que le gouvernement fait le nécessaire, voire plus, pour éviter une nouvelle résurgence?
L'équipe d'experts est arrivée à Beni et s'est installée à l'hôpital général de référence de Mandina, la cité rurale là où le virus s'est manifesté. Nous estimons que si l'équipe n'est pas en mesure de maîtriser le plus tôt possible le virus Ebola, elle fera recours à d'autres expertises internationales. Parce que, comme vous le savez, le virus s'est manifesté pour la première fois en 1978 en mer de Congo. Et ça, c'est, je pense, la septième ou la huitième fois. Mais l'expérience d'autres pays africains, notamment le Libéria, qui est le tout dernier pays, peut aider les experts congolais à recourir à l'expertise étrangère pour éradiquer le plus tôt possible pour le bien-être de la population.
C'était Nikèze Kibelbel Oka, directeur de publication du bimensuel Les Coulisses, joint à Béni.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
En Guinée, la filière de la friperie a explosé ces dernières années. Devant la très faible présence de l'industrie textile locale, les vêtements d'occasion importés d'Europe, d'Asie et des Amériques ont vite conquis les consommateurs et restent les plus utilisés par la majorité des Guinéens dans la capitale. Le succès de la friperie n'est pas sans conséquence sur les productions locales. Les couturiers guinéens mettent en cause la vente des vêtements de seconde main pour expliquer la baisse de leur chiffre d'affaires. Zakaria Kamara.
À Madina, le plus grand marché de Conakry, le commerce de vieux vêtements reste l'une des activités qui attire plus de visiteurs. Certains acheteurs expliquent leur choix par le prix à la bourse des plus pauvres et pour d'autres, c'est une occasion de se mettre à la mode internationale.
Si tu as 50 000, tu peux trouver plus de 10 ou 5 complets comme ça. Et je l'achète pour un plaisir, le mettre pour sortir.
Namori a commencé la vente des friperies après l'université. Il n'a connu que cette activité. Détaillant au départ, ce jeune est devenu l'un des importateurs de vêtements d'occasion.
À l'époque, on est venu tirer les rails et tout a commencé à partir de là-bas. On est resté dans ça, là, dans les détails. Finalement aussi, j'ai adhéré au groupe d'importateurs.
Dans son magasin, seulement quelques ballots de friperies attendent des acheteurs qui viennent de partout en Guinée. Mais si ce commerce est florissant, les détaillants n'ont aucun contrôle sur la qualité et la quantité de leurs approvisionnements. Des facteurs qui dépendent des cycles de consommation des pays de départ. C'est Kusuma détaillant.
Deux fois, ils envoient des bonnes qualités. Mais deux fois, quand tu achètes des bases, ça trouve que la qualité n'est pas bonne.
La friperie permet aux plus pauvres de s'habiller à moindre frais, mais elle a aussi favorisé la diffusion des valeurs occidentales. La Guinée manque de véritable industrie du textile local et les couturiers et autres semblent impuissants devant l'expansion du vêtement d'occasion importé. Alphao, styliste.
Il faut que l'Afrique enrichisse l'Afrique. Il faut que la Guinée enrichisse la Guinée. Au lieu d'aller acheter de la friperie, il est temps maintenant que nous commençons à acheter nos propres produits et à vendre nos propres produits ailleurs. Il est temps que nous pensions à créer de l'emploi. Et la création de l'emploi, ce serait au moins de concentrer 70% de nos vêtements, des vêtements qui viennent de chez les couturiers, de chez les stylistes ou les tailleurs. C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une chose qui peut aider beaucoup l'Afrique, surtout la Guinée, parce que sans ça, les jeunes Félix ne vont pas vivre.
Les clients ne se bousculent pas à la porte des ateliers de couture. Face à la faible demande, Maître Ibro, styliste, propose une solution.
Si à la maîtrise de ton travail, c'est ça que ça va marcher. Surtout les pan-africains que nous, on travaille. Parce qu'on ne peut pas avoir les pan-africains en Philippines. Hein.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel. VOA Afrique. Peace Africa.
I'm just sitting here playing the guitar. City high.
Sur cette belle musique, cette édition du Monde aujourd'hui était mise en onde par Michel Joseph à la console Voetex Zonia, présentation Abdourahman Dia. C'était en compagnie des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Et tout de suite, un programme